explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Le temps d'un bivouac.
C'est l'histoire d'un jardinier qui, à force de planter des arbres, en tombe éperdument amoureux. Plus il les fréquente, plus il veut en savoir sur eux. Leur terre natale, l'origine de leur nom, les propriétés médicinales de leurs feuilles, la couleur de leurs fleurs, la saveur de leurs fruits. Sa passion débordante le pousse à porter le regard bien au-delà de son jardin et à s'intéresser aux arbres dans toute leur diversité, sur tous les continents. Plus de 40 ans après ses débuts, notre jardinier, Alain Baraton, est toujours aussi émerveillé par ses géants de bois, amoureux comme au premier jour et peut-être plus encore, il vient tout naturellement de publier aux éditions Plomb un dictionnaire amoureux des arbres. Cet après-midi, des baobabs joufflus du Sénégal aux séquoias géants de Californie, en passant par les banyans tentaculaires d'Inde et les chênes légendaires de nos contrées, Alain Baraton, le jardinier en chef du parc de Versailles, nous emmène loin du château pour un voyage à la découverte de l'extraordinaire diversité du monde des arbres. Et en fin d'émission, avec Sylvain Bazin, grand adepte de la marche, nous explorerons quelques chemins de grande randonnée qui traversent nos régions et qui valent le détour. Voilà pour l'itinéraire du jour. Cette émission est réalisée par Hélène Kouyoumdjian et préparée par Claire Tesser, avec à la technique Benjamin Troussin. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Les arbres, les arbrisseaux, les plantes, les fleurs transportées dans nos bois, dans nos champs, dans nos jardins, annoncent la variété et la richesse du règne végétal en Amérique. Qui ne connaît aujourd'hui le laurier couronné de roses appelé magnolia, le marronnier qui porte une véritable hyacinthe, le catalpa qui reproduit la fleur de l'oranger, le tulipier qui prend le nom de sa fleur, l'érable à sucre, le hêtre pourpre, le sassafras, et parmi les arbres verts et résineux, le pin du Lord Weymouth, le cèdre de la Virginie, le baumier de Gilead, et ce cyprès de la Louisiane, aux racines noueuses, au tronc énorme, dont la feuille ressemble à une dentelle de mousse.
Extrait de Voyage en Amérique de François René de Chateaubriand. Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Daniel.
Ce texte figure dans votre dictionnaire amoureux des arbres, car Chateaubriand était un amoureux des arbres et on entend dans ses mots à quel point les arbres peuvent être une invitation au voyage.
C'est une invitation au voyage. Je voulais déjà vous remercier pour cette présentation merveilleuse que vous avez fait de mon ouvrage et vous avez parlé des arbres avec le cœur. C'est ça les arbres. Les arbres, quand on les regarde, ce ne sont pas que des morceaux de bois qui produisent des fleurs, des feuilles ou quelques graines. Ce sont des personnages vivants qui vous invitent à les accompagner. Vous avez raison, les arbres sont une invitation au voyage et quand on connaît leur histoire, bien il n'est nul besoin de parcourir la planète pour découvrir les continents. Allez dans un jardin, asseyez-vous, regardez les arbres et vous voyagerez, vous verrez vite et très très loin.
Ouais, alors très très loin. Et dès l'avant-propos de votre livre, vous nous faites voyager avec une très belle histoire, celle d'un arbre que l'on croyait disparu, le Crudia zélantia.
Une histoire du 21e siècle. Elle est récente, ouais. Cette histoire. Mais si vous le permettez, on va débuter au début du 20e siècle. Les botanistes qui se rendent au Sri Lanka constatent qu'il y a un arbre qui existe en très petite quantité, le Celia zélanica. Ils le regardent, le notent, le dessinent. Ils le connaissaient sous forme fossilisée, mais ils sont très heureux d'en voir quelques-uns, mais il y en a très peu. Ils sont quelque peu inquiets. Quand ils retournent au Sri Lanka, il y a une quarantaine d'années, l'arbre a totalement disparu. Ils sont inquiets, ils sont vraiment désespérés. Et là, l'arbre est officiellement reconnu comme éteint. Et il y a quelques années de cela à peine, un arbre est retrouvé. Mais le drame est qu'il est sur le passage d'une future autoroute. Les manifestations immédiatement se mettent en branle pour sauver l'arbre. Rien n'y fait, le pouvoir politique est intransigeant. L'autoroute doit passer. Le ministre de l'écologie, les écologistes se manifestent. Rien n'y fait, l'autoroute doit passer. Alors les moines bouddhistes décident de s'emparer du dossier, j'allais dire. Ils se rendent au pied de l'arbre. Eux aussi tombent en vénération devant ce végétal. L'entourent et mieux encore, ils le font moine. Et là, ça change tout.
Ouais. Parce que qu'on met une robe orange à cet arbre.
Mais tout à fait. On le fait moine, on lui donne les attributs du moine. Et le Sri Lanka est très respectueux de la religion bouddhiste. Il est donc hors de question de couper l'arbre. Aujourd'hui, l'autoroute évite l'arbre. L'arbre est toujours en vie, il va être multiplié bien évidemment, et cet arbre moine est le seul de son espèce à vivre aujourd'hui sur la planète. Moi je trouve ça extraordinaire.
Bah, c'est extraordinaire, et on voit l'attachement que les humains peuvent éprouver pour ces arbres. Alors votre passion pour les arbres vous a emmené très loin, on voyage donc dans votre livre au gré des différentes entrées de votre dictionnaire amoureux des arbres, et on voyage jusque dans des lieux inattendus, parce que à la lettre D, on trouve le désert. C'est pourtant pas là qu'on plante le plus d'arbres ou qu'on trouve le plus d'arbres.
Il y en avait, malheureusement, qui ont disparu par la bêtise des hommes ou par les changements climatologiques. Mais il est vrai que je voulais parler des déserts parce qu'on a tendance à croire que s'il y a des déserts, c'est qu'il ne pleut pas. Mais s'il ne pleut pas, ce n'est pas parce qu'il y a des déserts, c'est qu'il n'y a pas d'arbres. Oui. S'il pleut tous les jours sur la forêt amazonienne, c'est qu'il y a des arbres. Si demain...
Les arbres attirent la pluie, en quelque sorte.
Oui, parce qu'en fait, on va faire très simple. Les arbres, avec leur racines puisent dans la terre en profondeur de l'eau et la rejettent par les feuilles. C'est ce que l'on appelle l'évapotranspiration. C'est la raison pour laquelle il y a toujours un petit brouillard sur les forêts. On voit souvent les photos de l'Amazonie avec ce brouillard. Et par un phénomène chimique incapable pour moi de vous l'expliquer correctement, cette eau transforme l'atmosphère et attire l'eau. C'est comme ça, l'eau attire l'eau. Et donc, s'il pleut tous les jours ou presque en Amazonie, c'est qu'il y a des arbres. Si demain vous coupez les arbres en Amazonie, il ne pleuvra plus. Et si, au contraire, vous plantiez des arbres sur le désert, eh bien, il se remettra à pleuvoir. Donc, l'arbre a une influence énorme sur le climat. Ne l'oublions pas, d'où l'intérêt de, bien sûr, parler du désert.
Et alors on trouve quand même dans le Sahara, il y avait un arbre au milieu de nulle part. Vous dites c'était peut-être l'arbre le plus isolé du monde.
C'était
au cœur du Ténéré. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cet arbre?
Un camionneur ivre l'a percuté, l'arbre est mort. C'est
incroyable.
Quand même dément de s'imaginer qu'il n'y avait pas d'arbre à plusieurs centaines de kilomètres à Londres. J'ai bien dit plusieurs centaines, pas le moindre palmier, pas le moindre rien du tout. Et le camionneur fou a percuté. Alors ce fut un drame. Je ne sais pas ce qui est devenu le camionneur, mais l'arbre a été remplacé malheureusement par une statue qui aujourd'hui, eh bien, rappelle l'existence de cet arbre. Et de temps en temps, c'est assez amusant, car lorsque vous demandez à des gens qui connaissent bien la région, je pense aux gens qui y vivent, ils vous disent que c'était certainement un survivant de l'Éden. Eh ben oui, l'Éden était à cet emplacement, il en restait un arbre.
Ouais, c'est-à-dire qu'à un moment, dans le Sahara, il y a eu une période où c'était verdoyant et il y avait beaucoup d'arbres, et lui, c'était un des derniers escapés
c'était
de l'histoire.
Peut-être l'un des derniers escapés, mais comment faisait-il pour se nourrir? On ne sait pas. Comment la graine a-t-elle réussi à parvenir jusque-là? Une graine peut voler, mais dans des conditions extrêmes de température, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il y a toujours, ailleurs, toujours dans le désert, un autre arbre qui est devenu à son tour l'arbre le plus isolé du monde. Alors lui, il est vraiment protégé aujourd'hui. Ouais. Mais c'est toujours incroyable de voir comment les plantes ont réussi à s'adapter aux conditions environnementales vraiment pénibles.
Et puis alors, on trouve aussi en Afrique les fameux baobabs dont vous dites, celui-là, peut-être que beaucoup de gens ne l'ont jamais vu en vrai, mais par contre, on a tous cette silhouette très caractéristique de ces baobabs joufflus et qui sont là encore des signes pour les humains. On sait que là où il y a un baobab, on peut creuser un puits.
Eh oui, parce que l'eau est à proximité. Là encore, l'arbre ne s'est pas mis par hasard n'importe où. Il sait où est l'eau et il s'est donc implanté naturellement avec la petite graine. Là aussi, la graine, c'est très compliqué. Le baobab, il ne germe pas aussi facilement. Mais il est vrai, et ce que vous dites est juste. Le baobab est certainement, déjà, c'est l'un des rares arbres qu'on peut l'en prononcer dans les deux sens.
Ce qui peut être, c'est un palindrome.
Oui, ça peut être pratique. Mais c'est le seul arbre que peu de nous avons vu de nos yeux vus, et pourtant, on le connaît tous. Et ce baobab est aujourd'hui en danger, là encore, pour des problèmes du réchauffement climatique, par des problèmes d'urbanisation, et puis de temps en temps par quelques animaux, les éléphants par exemple. Avec leur défense, on a la fâcheuse tendance de percer le tronc pour boire l'eau contenue dans le tronc, car en fait ce sont des réservoirs d'eau qui peuvent contenir des centaines de litres. Ouais. C'est absolument incroyable.
Oui, vous dites même jusqu'à 100 000 litres, hein, dans un tronc de baobab.
C'est vraiment fou, et pendant des siècles, des millénaires, ces arbres ont été respectés par les autochtones. Aujourd'hui, malheureusement, on fait là encore un peu tout et n'importe quoi, et ils sont en train, les uns après les autres, de disparaître.
Et juste avant le baobab, dans votre dictionnaire, on trouve le banyan, un arbre que l'on trouve entre autres aux îles Marquises, où je m'étais rendu pour un reportage pour la Terre au carré, c'était la Tête au carré à l'époque, en 2008. L'archéologue Pierre Autineau m'avait expliqué l'importance des banyans sur un des anciens sites aménagés par les Marquisiens pour les cérémonies.
Tu vois que là, il y avait vraiment une population importante, parce que tout est organisé. Le paysage a été totalement réaménagé par les anciens. Et tu as également énormément d'arbres. Tu as des arbres à pin. Tu as aussi des châtaigniers de Polynésie. Et aussi ce superbe banyan qui est là-bas. Et
alors lui, il faut le décrire parce qu'il est absolument gigantesque. Hein. Je ne sais pas, il fait...
De diamètre, j'ai l'impression qu'il fait pas loin de 15 mètres de diamètre.
Un tronc très ramifié, hein, avec plein de rejets secondaires qui viennent se planter dans la terre tout autour.
Tu as un tronc principal, mais des racines adventives.
Ah, c'est des racines adventives.
Voilà, donc qui atteignent le sol et qui se transforment petit à petit en tronc. Et du coup, le tronc grossit. Tu n'as pas vraiment un tronc unique. Donc c'est un arbre vraiment... important, qui marque aussi les sites, parce que de l'extérieur, de loin, des crêtes, tu les vois bien. Mais en dehors de ça, souvent, ils mettaient aussi, dans les banyans, ils mettaient les os, ils confiaient les os des ancêtres, soit directement, soit dans des petits cercueils. Et on mettait les cercueils dans les racines de banyans, et petit à petit, le banyan intégrait, hein, recouvrait ses ossements des anciens, en les intégrant à ses racines, donc elles disparaissaient aussi, progressivement.
L'archéologue Pierre Ottineau, Alain Baraton, là on a un arbre qui fait office de cimetière ou même de porte vers l'autre monde. On voit toute l'importance symbolique que l'on donne à ces arbres.
Elle est considérable, mais une petite anecdote au sujet de cet arbre que je trouve vraiment délicieuse. Il y a à Tahiti, l'un des principaux parcs botaniques, est justement planté d'un banyan qui fut sacré l'un des plus beaux arbres européens, il y a quelques années. Et j'aime bien connaître l'origine des arbres, leur lieu de naissance, d'où viennent-ils, et puis de temps en temps, où ont-ils été produits ? Eh bien, le banyan de ce parc de Tahiti a une histoire incroyable, car ce jardin a été créé par un Américain qui était tombé fou amoureux de cette île et qui commence à y planter quantité de végétaux. Et en se promenant à Paris, je dis bien à Paris, quai de la Mégisserie, il tombe sur un petit banyan qui est vendu chez un floriste. Il l'achète, il le ramène à Tahiti. Le plus beau banyan de Tahiti est né à Paris.
Ouais. En tout cas, la graine vient de Paris. Incroyable. Et alors, les banyans, vous nous dites en Inde... Parce que c'est l'arbre symbolique d'Inde, hein, le banyan.
Tout à fait.
Et on en trouve. Alors, faut bien se dire que les troncs, c'est pas d'un seul bloc. Hein, c'est plein de tiges, comme une forêt.
C'est une succession, effectivement, de troncs. Ils sont tous reliés, bien évidemment. Mais quand on les regarde de l'extérieur, eh bien, on dirait une forêt. Et le plus important banyan, qui est en Inde considéré comme monument national, il est protégé, il est vénéré, contient la surface de plusieurs stades de football.
Ouais, deux terrains de foot.
Deux terrains de football.
Large comme deux terrains de foot.
C'est considérable. Et quand on le regarde, on a du mal à s'imaginer que c'est une seule et même plante. Ouais. Là encore, c'est extraordinaire. Ouais. Mais vous savez, j'en profite pour rappeler qu'on devrait peut-être corriger notre façon de voir les végétaux. Quand on parle d'un arbre, prenons l'exemple d'un séquoia. Ouais. Je vous dis que le séquoia fait 115 mètres sans les racines. Peut-être devrait-on rajouter les racines pour avoir la véritable hauteur. Ouais. Là encore, on minimise leur importance.
Ouais. Le séquoia, il ne faut pas les minimiser parce que c'est quand même des arbres gigantesques. Rien que l'écorce est 20 cm d'épaisseur, vous nous dites, on est dans tous les superlatifs.
Une écorce qui permet à l'arbre de résister au feu, là encore, c'est extraordinaire. Cet arbre qui a été capable de se débarrasser de ses branches les plus basses, de produire une écorce capable de résister au feu, ce qui explique pourquoi, en Californie, il continue de survivre malgré les nombreux incendies de forêt.
Ouais, ouais, ouais. Alors on a mis quelques photos de banyans, baobab, séquoia géant sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac. L'amoureux des arbres, Alain Baraton, nous emmène bivouaquer sous les feuillages du monde cet après-midi sur France Inter. Et on reste encore un petit peu sous les séquoias avec Pomme.
Tourner dans l'allée, entendre les séquoias chanter.
Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois. Silence, les faiblesse de ma voix et habiter mon propre corps pour la première fois. J'ai bien gardé tous les secrets du vent entremêlés, la salle épaisse.
Les séquoias, c'était Pomme sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Jardin des plantes ce matin.
Oui, avec les oiseaux.
Et nous sommes venus à la rencontre du cèdre du Liban.
On va le chercher, c'est bien, oui. On rentre dans un tunnel de verdure. C'est très agréable. Des chênes verts. On a des pins, des ginkgo biloba autour. Là, on découvre un bel if, Texas baccata.
Ça y est, on a fait quelques pas de plus.
Et on découvre d'abord son tronc. Et puis, tout d'un coup, on se retrouve sous ses branches et tout d'un coup, c'est immense. Et c'est le plus vieux cèdre de France, planté donc par Bernard de Jussieu en 1734. C'est un cèdre qu'il a ramené d'une pépinière anglaise.
Donc c'est pas une graine qu'il a plantée là.
Non,
c'est
non,
un petit arbre.
C'est un petit arbre qui a déjà voyagé, qui a déjà pris la mer. Donc, planté en 1734, ça lui fait 272 ans quand même.
Et ce reportage date de 2006. Depuis, il a encore un peu vieilli, ce cèdre du Liban, du Jardin des Plantes, que nous présentaient José Lepiez, élagueur et musicien. Alain Baraton, jardinier en chef du Parc de Versailles, vous parlez de ce cèdre du Liban dans votre dictionnaire amoureux des arbres, paru chez Plomb. Il a réellement été planté par Jussieu ?
Il a réellement été planté par Jussieu, mais je voudrais quand même corriger un petit peu la légende, même s'il ne faut pas toucher aux légendes. J'adore cette phrase de John Ford qui dit « Quand la réalité est moins belle que la légende, il faut imprimer la légende. » Alors, il se dit que Jussieu va chercher ce cèdre, enfin, ses cèdres en Angleterre. Il y en avait trois. Il les ramène à Paris, mais qu'il est maladroit et en Angleterre, il les fait tomber par terre. Il n'y a plus de peau. Il va donc les mettre dans son chapeau. Et il y a des gravures qui représentent Jussieu à bord d'un navire qui tient dans le chapeau les petits cèdres du Liban. Erreur, mensonge. En fait, c'est à l'entrée du Jardin des Plantes qu'il fait tomber effectivement les pots qui les cassent. Donc les cèdres du Liban ont fait que terminer leur périple dans le chapeau. Toujours est-il qu'ils ont bien été plantés par Bernard de Jussieu. J'en profite pour rappeler que celui qui vit au Petit Trianon, lui, n'existe plus. Il avait été planté au même moment, ouais. Mais je crois qu'il a été plus ou moins détruit par le temps. Il a été replanté sous Napoléon lorsqu'il fallait célébrer en plantant un cèdre Marengo. Donc on a replanté, enfin on a, mes prédécesseurs ont replanté un cèdre. Et quand on regarde le Petit Trianon, l'arbre sur la droite, n'est donc pas le cousin du cèdre du Liban, du Jardin des Plantes de Paris, mais son neveu.
Ah oui, vous avez carrément l'arbre généalogique de vos arbres.
Oui, oui, mais c'est important de reconnaître les arbres. Vous savez, l'arbre généalogique, ouais. C'est marrant d'ailleurs votre expression. Ouais, ouais. Je constate que le mot arbre est souvent dans notre langage le plus doux. On parle d'une pépinière, on parle d'un jardin d'enfants. Donc le monde des arbres nous adoucit.
Il y a beaucoup d'arbres qui sont sur notre sol, en tout cas d'espèces d'arbres qui ont voyagé, qui ont pris la mer, comme ces cèdres du Liban.
Mais vous n'avez pas idée. Pratiquement l'immense majorité des arbres que vous contemplez aujourd'hui viennent d'Asie, viennent d'Amérique. Le thuya, ce bon vieux thuya que vous n'aimez peut-être guère, celui qui clôture votre propriété et que vous qualifiez peut-être vous aussi de béton vert, eh bien sachez qu'il a été découvert au Canada par Jacques Cartier, que dans son pays d'origine il fait 60 mètres de hauteur et qu'il est le premier végétal en provenance du continent américain introduit. Quand vous allez à Paris et que vous allez contempler la restauration de Notre-Dame de Paris, sur la droite de l'autre côté de la Seine, il y a le square Viviani. Au milieu de ce square vit le plus vieil arbre de Paris, un acacia appelé Robinia, du nom de Jean Robin, l'homme qui est le premier à avoir planté la graine de cet arbre, lui aussi originaire du continent américain. Si nos Gaulois devaient qualifier les arbres qu'ils avaient sous les yeux, ben vous voyez que le paysage était beaucoup moins plaisant qu'il ne l'est aujourd'hui.
Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a par exemple des Ginkgo biloba, et c'est assez récent finalement qu'on ait des Ginkgo biloba.
1717, c'est la date précise quand un Allemand du nom de Kempfer se rend dans un temple japonais et découvre un végétal connu que sous forme de fossile, d'où le surnom d'arbre fossile. Quand il découvre cet arbre, il est absolument estomaqué. Cet arbre, autrefois, était partout sur l'hémisphère Nord, il a totalement disparu, la faute peut-être à des éruptions volcaniques. Il ramène quelques exemplaires, je dis bien quelques, parce que l'arbre est dioïque, à savoir, il existe des pieds mâles et des pieds femelles. Mais il est vrai que le Ginkgo biloba est un arbre né en Chine, sauvé au Japon et aujourd'hui dans tous les parcs européens.
Ouais. Et alors pour avoir ces graines, d'ailleurs l'Allemand qui a redécouvert cet arbre au Japon, il a dû négocier, ça s'est pas fait en une année, il est resté 9 ans sur place, il a dû montrer patte blanche.
C'était de la folie, il avait interdiction de commercer avec la population, il a dû signer un contrat avec son propre sang, il avait obligation de s'arrêter dans les maisons bourgeoises et de chanter et faire la comédie pour montrer aux habitants à quoi ressemblaient les coutumes européennes. Ce fut véritablement pour lui cauchemardesque, il avait même obligation de marcher à gauche dans les rues pour éviter éventuellement, en croisant un samouraï, de le froisser et de le provoquer en duel. C'était assez épique.
Alors il y a des histoires encore plus cauchemardesques. Hein. Certaines expéditions qui avaient pour objet de transporter des arbres ont vraiment mal fini. C'est le cas de celle qui a inspiré à Jules Verne une nouvelle, Les Révoltés du Bounty, adaptée ensuite au cinéma.
L'amirauté m'a donné instruction de prendre la tête d'une expédition qui aurait mission d'apporter des arbres à pain de Tahiti à la Jamaïque.
Mais pourquoi des arbres à pain à la Jamaïque ?
Pourquoi ? C'est de la pitance pas chère pour les esclaves des plantations, car les bananes deviennent hors de prix de nos jours.
Rien de très glorieux, William.
Je veux me faire un nom avant d'être trop vieux.
Mais qu'est-ce qu'il en faut à cette plante miracle ?
De la lumière, de la chaleur et un peu d'eau. Je les prendrai dans ma cabine s'il le faut.
De petits porcs dans une porcherie, voilà ce que nous serons.
Non, et non, pas du tout. Le vaisseau est propre, monsieur Fryer.
Je voulais dire que le Bounty est trop petit. Il nous faudrait une frégate et non un bout de champ.
Une frégate, d'une part, il faudrait aussi que je sois promu capitaine de frégate. Nous ferons le tour du globe.
Envoie l'attention, pareil à larguer.
Allez, allez, on y va.
Now we are ready to sail round the horn.
Way, roll and go.
Me boots and me clothes, boys are rolling the pond.
Sorry, rollicking randy dandy, oh. Heave a pull, oh, heave away. Way, hey, roll and go. The anchor's on board and the cable's also
tied.
Rollicking randy dandy, oh.
Alain Baraton avec un joli chant de marin, hein, en prime. L'histoire des révoltés du Bounty est inspirée de faits réels.
Oui, mais quelle joyeuse, quelle belle expédition. Vous parliez en préambule de ce voyage. Imaginez que les révoltés du Bounty vous permettent de découvrir l'arbre à pain, la plus célèbre mutinerie. Et vous apprenez même que c'est Jules Verne, je dis bien Jules Verne, qui est effectivement le premier à eu l'idée de cette histoire inspirée de faits réels. Sauf que l'histoire réelle est beaucoup moins glorieuse. Le capitaine Blight, l'odieux capitaine Blight, n'était pas aussi odieux que ça. Quant aux marins, il n'était pas aussi angélique que ça non plus. Ouais. Mais il est vrai que cette histoire de mutinerie qui, pour permettre à un arbre d'avoir de l'eau, est vraie.
Alors c'est l'inverse. En fait, ils se mutinent parce qu'on réserve l'eau pour alimenter les arbres, alors que les marins sont en train de crever de soif.
Mais tout à fait. Tout à fait. Et donc, on connaîtra la suite, bien évidemment. Mais également avec le premier plan de cacaoyer, où un homme part livrer ce plan, et il se bagarre avec les hommes d'équipage qui ne comprennent pas pourquoi on réserve l'eau de pluie à cet arbre, alors que eux ont soif.
À l'époque, transporter les plantes d'un continent à l'autre, c'était toute une histoire.
Oui, mais n'oubliez pas non plus qu'à l'époque, les plantes, c'était plus que des végétaux d'ornement. C'était avec les plantes que l'on soignait. C'est avec les plantes que l'on fabriquait l'aspirine. L'aspirine salicine, ça vient du mot latin salix, qui désigne le saule. Je veux dire par là que la plante avait une importance considérablement dans la médecine et dans l'alimentation et dans la construction. Donc, le montant financier métiers et des échanges étaient considérables.
Ouais. Et puis une fois les plantes, alors c'était toute une histoire de les transporter sur ces bateaux, et puis une fois arrivées sur le sol d'adoption, il fallait encore qu'elles s'acclimatent, d'où les jardins d'acclimatation pour
les
ces plantes.
Les jardins des retours, c'est ouais. le véritable terme de ces jardins. Il y en avait dans tous les grands ports en France, à Brest, à Toulon ou ailleurs, et c'était vraiment des lieux où l'on mettait les plantes d'abord en quarantaine, on leur faisait une petite santé parce que c'était quand même pas évident. Mais justement, si vous le permettez, je vais revenir sur l'anecdote du thuya.
Ouais.
Quand le thuya est découvert par Jacques Cartier, il est persuadé que les feuilles sont utiles pour lutter contre le scorbut, cette maladie terrible qui affecte les marins. Or, il en est persuadé parce que les Indiens l'appellent l'arbre de vie. En fait, il s'est trompé, il l'appelle ainsi car la plante reste verte toute l'année. Toujours est-il qu'on charge un exemplaire à bord, le bateau traverse l'Atlantique, une fois arrivé en France, personne n'a grignoté. Les feuilles, elles sont toxiques. On va pas jeter un arbre, un miraculeux. Que fait-on? On va l'offrir à François Ier pour son château de Fontainebleau. Et quand François Ier découvre le thuya, lui aussi va donc le qualifier d'arbre de vie pour avoir été capable de résister à une si longue traversée, mais pas seulement, au manque d'eau, à l'eau salée, à la chaleur, au soleil, parfois même au froid. C'est absolument incroyable. Le voyage des plantes est une odyssée absolument phénoménal.
Oui, alors il y en a plein d'autres à découvrir dans votre livre, on n'a pas le temps de toutes les faire, mais le thé, d'ailleurs c'était un faux thé, les Anglais se sont fait arnaquer, il y a aussi les cerisiers qui ont voyagé. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'il y avait comme arbre autochtone, on va dire ceux qui n'ont pas eu besoin des humains pour prendre racine sur le sol de ce qui est devenu l'Europe?
Eh bien déjà, apprenons un petit peu mieux le latin pour mieux comprendre l'origine des plantes. Vous venez de citer le cerisier. Le nom latin du cerisier, c'est Prunus cerasus. Cerasus, c'est le nom d'une ville de Turquie. Voilà pourquoi le cerisier s'appelle ainsi. Alors, il y a heureusement des plantes autochtones. Alors, je pense au châtaignier, le merveilleux Castanea sativa. Là aussi, c'est marrant. Prendre une châtaigne, la castagne, le nom latin. Castanea, oui, il y a tout dans le nom, dans le nom botanique. Je trouve ça extraordinaire. Il y a bien entendu les frênes, qui sont également des arbres originaires de nos contrées. Là encore, attention, ils souffrent d'une maladie terrible, la calarose. Il faudrait être prudent. Le hêtre, existe-t-il plus bel arbre que le hêtre? Une forêt de hêtre à l'automne est un spectacle absolument extraordinaire. Le hêtre souffre grandement du réchauffement climatique. Et puis, comment ne pas oublier le seigneur des arbres, le chêne.
Alors le chêne, promis, on va s'y intéresser. Puis à quelques autres arbres de nos régions dans la suite de ce temps d'un bivouac. Puis on ira faire un tour aussi dans le parc de Versailles, dont notre invité Alain Baraton est le jardinier en chef. C'était Rover to the Tree sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Alors cet arbre-là, il est tout le temps resté parce qu'il était creux, il n'y avait pas de bois de chauffage, alors on l'a laissé. Quoi. C'est pour ça que la Révolution, il devait être comme ça, puis ils l'ont laissé aussi, quoi, parce qu'il fallait trop de temps pour l'abattre. Parce que nous, comme c'est, aller abattre ça, vous, avec une hache. Les enfants vont dedans, quoi.
Et en tant que touriste, je me dois quand même de rentrer dans les chaînes de Guillotin pour voir si l'histoire est vraie.
Qu'est-ce qu'il y a de plus bête qu'un touriste et un autre touriste? Oui. C'est ce que je vais dire.
Ça a bien caché un curé. Je vois pas pourquoi ça cacherait pas un touriste comme moi.
Ah bah oui.
Là, je suis en train de me glisser quand même à l'intérieur.
Hein? La patte.
Oui, oui, oui.
Non, tiens, il pense.
Là, je suis à l'intérieur du chêne. Et c'est extraordinaire parce que il y a la cheminée qui grimpe jusqu'en haut. Et on pourrait pratiquement grimper de l'intérieur de l'arbre jusqu'aux feuilles.
Hein. Il est magnifique avec ses... C'est vrai.
On sent qu'il y a du monde qui est passé. Hein. Ah oui. Là, on sent les mains qui ont poli l'intérieur et tout. Il y a plus d'un gamin qui a dû grimper là-dedans.
Oh oui.
On se sent protégé. Bon. Je ressors quand même.
Un journaliste sur France Culture en 1998, pénétrant sous l'œil amusé d'un agriculteur dans le chêne de Guillotin, dans le Morbihan. Alain Baraton, vous en parlez de ce chêne de Guillotin dans votre dictionnaire amoureux des arbres paru chez Plomb.
Un arbre extraordinaire qui protégeait non pas le créateur de cette terrible machine, mais un curé du nom de Guillotin, et il s'était caché à l'intérieur du tronc pour échapper aux révolutionnaires. Alors ensuite, quantité de légendes, mais cet arbre existe toujours, il est merveilleux à découvrir. Mais les chênes en France, il y en a certains qui sont fabuleux. Je pense au chêne sur la commune de Pessines, c'est en Charente-Maritime. Il est âgé à peu près, d'après les spécialistes, de 1800 ans. Vous imaginez cet arbre qui a 1800 ans. Alors effectivement, le chêne d'Oradour-sur-Glane, lui, est un gamin, mais ce chêne, même s'il est jeune, à peine une petite centaine d'années, il fut le témoin de la barbarie nazie. Cet arbre, il est à l'entrée du village, il est en quelque sorte le seul être vivant, ou presque, qui ait résisté à cette terrible journée au moment où les Allemands ont fait ce que l'on sait. Je pourrais aussi vous parler du célèbre chêne d'Allouville, ce chêne qui a manqué d'être abattu à la Révolution, car il était devenu une chapelle avec à l'intérieur du tronc, là encore, deux statuettes honorant la Vierge Marie. Et il a fallu que l'instituteur du village, de nuit, vienne placarder le mot « temple de la raison » pour que les révolutionnaires se disent « n'y touchons pas, cet arbre est en quelque sorte sacré, précision non négligeable ». L'instituteur qui a sauvé le chêne d'Allouville s'appelait Monsieur Bonheur.
Ah ben voilà, c'est un joli nom prédestiné. Il y a plusieurs cas comme ça d'arbres qui ont été sauvés par la malice de certaines personnes qui ont su employer les bons mots au bon moment pour pas que l'arbre soit abattu.
De temps en temps, parfois on ne peut pas le sauver, mais on est capable de transmettre son souvenir en disant cela. Là, je pense au marronnier que voyait Anne Frank depuis ses fenêtres de cette maison où elle se cachait à Amsterdam. Ce marronnier était la seule relation qu'elle avait avec le monde extérieur. Elle était là, elle était cachée. Elle était avec, je crois qu'il se prénommait Frank, mais j'ai un doute. Il voit l'arbre. L'arbre fleurit avec les feuilles, indique les saisons. Elle voit les oiseaux. C'est pour elle le bonheur de vivre, du moins le peu de bonheur de vivre. Nous connaissons malheureusement la suite et le drame qui suivra. Eh bien, les jardiniers d'Amsterdam avaient eu l'idée, avant que l'arbre ne soit détruit et abattu suite à une tempête, de prélever des marrons. Et aujourd'hui, il existe des descendants directs du marronnier d'Anne Frank. Ouais. Quand on va à Paris, dans le quartier du Marais, il faut découvrir le petit square Anne Frank. Il est bien dissimulé. Il y a au milieu un arbre qui est le marronnier d'Anne Frank. Je trouve ça plein d'émotions, c'est vraiment extraordinaire.
Il y a un chêne qui était très cher à votre cœur, à vous Alain Baraton, le chêne de Marie-Antoinette, c'est ainsi qu'on l'avait surnommé dans le parc de Versailles. Il n'a pas survécu à la canicule de 2003, et quand il a fallu l'abattre en 2005, vous étiez présent.
C'est un peu comme la levée d'un corps, de 324 ans. Il faisait 35 mètres de haut avant d'être élagué et 5,50 mètres de circonférence. À midi et demi, il a été déraciné tout en douceur pour quitter à jamais son habitat à mi-chemin entre le Grand Canal et le Grand Trianon. Comme Marie-Antoinette en son temps, Alain Baraton, le jardinier du parc de Versailles, vivait heureux auprès de son arbre.
Voir un arbre disparaître quand on est jardinier, c'est toujours vraiment une grande émotion. Un jardinier est un homme qui élève les arbres, qui les cultive, qui les arrose et qui n'est pas un bûcheron. Donc effectivement, voir un arbre tomber aujourd'hui, même si c'est pour lui donner une autre place et le garder en tant qu'œuvre d'art, c'est quand même un gros pincement au cœur.
Le tronc et ses racines seront dorénavant exposés près des pépinières du parc. Une nouvelle vie et bien des histoires à raconter.
Il s'est donc transformé en œuvre d'art, ce chêne de Marie-Antoinette. Qu'est-ce qu'il a vécu, cet arbre ?
Déjà, cet arbre a résisté à l'abattage général de 1776. Et s'il était appelé chêne de Marie-Antoinette, c'est qu'une légende prétend que quand celle-ci venait au Petit Trianon, elle profitait de son ombrage pour s'arrêter quelque peu. Mais je voudrais vous parler non pas du chêne avant, mais après. Déjà, cet arbre était né en 1670, donc il était le témoin direct de la construction du château. Imaginez, quand on voit le chêne, ou quand on le voyait, ce chêne de Marie-Antoinette, il avait, lui, de ses feuilles vues, Louis XIV, André le Nôtre, Louis XV, Marie-Antoinette. Enfin, c'était quand même complètement dingue. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand il est mort, quand il a fallu malheureusement le couper, il y a eu un impact médiatique dans le monde hors du commun. Et un homme, monsieur Hayek, propriétaire des montres Swatch et Breguet, a souhaité faire don au Versailles en échange de bois pour faire un joli coffret. Il a fait don de la restauration du Petit Trianon et du pavillon français. Si aujourd'hui, on peut à Versailles découvrir un Petit Trianon entièrement restauré, on le doit à un homme, à monsieur Hayek, décédé aujourd'hui, qui, en voyant tomber le chêne de Marie-Antoinette, a eu envie de faire un geste pour le château. Même après leur mort, les arbres de Versailles continue à nous aider.
Mais c'est ça, on le doit aussi à cet arbre, hein, finalement, pas uniquement à ce monsieur.
Vous savez, les arbres, c'est quand même un peu dommage. Versailles tient sa réputation, bien sûr, des monarques qui ont voulu le domaine et qui l'ont aménagé, mais aussi des tableaux, des sculptures, des jets d'eau et de bien d'autres merveilles. Et les arbres, finalement, il a fallu attendre quelques années seulement pour que l'on s'en préoccupe vraiment et qu'on les classe admirables. Ouais. Mais il est vrai que les arbres contribuent grandement à la réputation du site, au même titre que les œuvres d'art qui peuplent ce site.
On s'en est rendu compte tout particulièrement en 1999, lors de la fameuse tempête. Là, vraiment, le parc de Versailles, toute la France a été touchée, mais le parc de Versailles particulièrement. Et vous avez vécu, Alain Baraton, cette tempête de l'intérieur. Vous étiez aux premières loges, vous étiez dans le parc au moment où ça soufflait. Racontez.
Oui, et c'est là où j'ai vu l'impensable, des rafales de vent à 176 km/h, des arbres qui se soulèvent, qui se déchirent comme de simples allumettes. 18 500 arbres seront jetés à terre, brisés par un vent devenu fou. Les jours qui suivront nous obligeront à mettre à terre 33 000 arbres supplémentaires. Versailles est presque en totalité détruit, je parle du château bien évidemment. Et si toute la France a été meurtrie par ces vents furieux, Versailles en est devenu le symbole. Il faudra près de 20 ans pour restaurer en totalité le domaine, mais nous avons tenu compte de ce que nous avons vu. Et surtout, moi, ce que j'ai observé, c'est la fragilité d'un arbre. On a du mal à s'imaginer que des arbres qui font plusieurs mètres de diamètre, des costauds, des arbres incroyables, soient capables si facilement de tomber. Les arbres sont fragiles, il faut donc faire en sorte d'éviter, de leur créer bien des déboires, bien des ennuis. Il faut les aimer, les protéger et se rappeler que des vents furieux peuvent les coucher en quelques secondes seulement. Il faut être extrêmement vigilant.
Alors 20 ans après, comment, alors vous avez replanté énormément d'arbres, comment ça a été pensé justement le réaménagement de ce parc de Versailles?
Alors nous avons déjà tenu compte de la diversification pour éviter que si demain une maladie venait à s'abattre, tous les arbres viennent à mourir. Donc nous avons multiplié les essences, nous avons maintenant à Versailles des aliments de peupliers, de tilleuls, nous avons des aulnes, nous allons bien des tulipiers, quantité de végétaux donc sont venus remplacer pratiquement les uniques tilleuls qui eux-mêmes avaient remplacé, je dirais, les uniques ormes. Nous avons également tenu compte des distances de plantation. Les arbres plantés trop près ne peuvent pas développer une ramure suffisante, donc les racines en souffrent. En les distançant, les racines ont davantage de profondeur et maintiennent davantage le végétal. Nous les plantons à l'automne pour favoriser l'arrosage et un meilleur ancrage printanier. Nous choisissons des arbres de petite dimension. On plante moins gros qu'auparavant. Et nous faisons en sorte que les arbres que nous plantions aujourd'hui résistent longtemps. Et je suis heureux de constater que nous continuons tous les ans à planter des centaines de linéaires en arbres. Et je peux même vous annoncer qu'à l'automne, à Versailles, ce n'est pas un alignement que nous allons replanter. C'est carrément une petite forêt. Nous allons replanter sur plusieurs dizaines d'hectares un bosquet qui n'existait pas. On va créer un écran de verdure supplémentaire. Un bosquet va naître.
Alors, vous pensez les essences en fonction justement des maladies, parce qu'on le sait, en ce moment, en Europe, les arbres de nos régions sont menacés par de très nombreuses maladies. Vous en tenez compte dans
oui,
le choix des essences?
Les jardiniers du roi ne pensaient qu'au roi. Les jardiniers de la République, et j'en suis, pensent à la biodiversité. Ouais. Donc, nous prévoyons des arbres de belles dimensions pour séparer le château des vues disgracieuses des villes nouvelles. Nous plantons des végétaux capables d'attirer les oiseaux et les insectes. Nous plantons des végétaux capables d'attirer les gourmands. Je trouve amusant de dissimuler ça et là quelques pruniers qui donnent envie aux gamins en été d'aller les rechercher. Nous essayons également de varier les essences pour qu'il y ait un mélange terreux intéressant, que les feuilles elles-mêmes puissent se mêler de façon plus intelligente dans le compost. Enfin, il y a toute une étude qui est faite pour qu'il y ait vraiment un changement de paysage tout en conservant l'âme du domaine.
Pour terminer, deux proverbes que vous citez dans votre ouvrage, Alain Baraton. Un proverbe indien, les arbres sont les piliers du monde, quand les derniers arbres seront coupés, le ciel va nous tomber dessus. Et puis un proverbe arabe, ne coupe pas l'arbre qui te donne de l'ombre.
Oui, moi je voudrais citer, si vous le permettez, Working Buffalo. C'était un chef amérindien, un homme extraordinaire qui militait pour la paix. Il est mort dans les années 1960. Cet homme disait qu'il faut parler aux arbres, car les arbres nous écoutent. Mais il rajoutait, le drame avec les blancs, c'est qu'ils n'écoutent pas.
Merci Alain Baraton. Nous, on vous a écouté, promis. Je rappelle que vous publiez le dictionnaire amoureux des arbres aux éditions Plomb. Vous restez avec nous, hein, Alain. Dans un instant, nous partons marcher sur les chemins de grandes randonnées de France avec un spécialiste, Sylvain Bazin. Et certainement qu'il y aura des petites indications à nous donner sur les arbres.
Je suis là.
Qu'on peut trouver.
Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville, j'ai grandi loin des futaies, où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, pour pousser je me débats, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines pour prison, et mes racines on les recouvre de gris, comme un arbre. Comme un arbre dans la ville, j'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, on m'a des rues pour bâtir où j'ai vécu, des parkings d'honneur posthume, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville. Ami fait après ma mort, barricade de mon corps et du feu de mes branches. Comme un arbre dans la vide.
C'était Maxime Le Forestier, Comme un arbre, et la programmation musicale spéciale arbre de cette émission est signée Muriel Pérez.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé sur France Inter.
Le plus important, c'est de trouver son rythme, de marcher régulièrement. N'essayez surtout pas d'imiter les autres. Hein? Non, non, non. Si quelqu'un prend du retard, c'est pas un problème, on l'attendra. On n'est pas ici pour faire une compétition ou je ne sais quoi. On est ici pour profiter de la nature. D'accord? Un petit truc pour les bottines. Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe.
On marche, quoi.
Hein? Oui.
Oui, c'est ça, on marche, un extrait du film Les Randonneurs avec Benoît Poulvorde, car nous allons nous élancer sur les chemins de randonnée de nos régions avec un passionné de marche, Sylvain Bazin, bonjour.
Bonjour Daniel.
Vous avez publié aux éditions Glénat La France des GR. Les GR, ce sont bien sûr les chemins de grande randonnée. Et votre livre présente toute la diversité de ces GR à travers le pays avec de superbes photos. On y trouvera plein d'idées pour les prochaines vacances. Il y en a pour tous les niveaux et pour tous les goûts. La montagne, la campagne, au bord de la mer. Alors Sylvain Bazin, on peut dire vraiment que la France est un pays qui occupe une position de pointe en ce qui concerne les chemins de randonnée ?
Exactement, oui, c'est un pays qui possède un réseau de sentiers tout à fait extraordinaire, hein. Il y a plus de 180 000 kilomètres de sentiers balisés en France, et surtout il y a une couverture territoriale qui est vraiment fantastique. C'est-à-dire qu'en France on ne randonne pas uniquement en montagne, par exemple on peut randonner dans l'ensemble de la France. On est rarement à plus de 5 kilomètres d'un chemin de randonnée où que l'on soit en France.
Alors vous remontez un peu dans l'introduction à l'histoire de ces sentiers de randonnée balisés en France. Le premier date de 1832, c'était où ?
Alors c'était à Fontainebleau, c'était un peintre, hein, Charles-François Denecourt, qui a déjà balisé quelques sentiers, quelques parcours au sein de la forêt de Fontainebleau. Alors ensuite, il faudra attendre un peu quand même avant de voir vraiment d'autres sentiers balisés et en plus grande quantité. Il y a le club vosgien qui était un peu précurseur quand même, puisqu'ils ont commencé à baliser leurs sentiers à partir de 1872. Hein. C'est d'ailleurs une particularité qui reste dans le massif des Vosges, puisque c'est encore ce balisage du club vosgien qui est en place.
Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a une marque particulière qui date de cette époque. C'est quoi la marque ?
Alors, dans les Vosges, ça n'est pas le balisage de la Fédération française de randonnée qui prévaut. C'est le seul massif en France qui est comme ça. Ça reste le balisage du club vosgien avec des petits ronds, des petits rectangles, des petits triangles, des petits losanges. C'est tout un langage un peu à apprendre. Hein. Il y a un foisonnement de terrain de sentiers qui font de ce massif aussi une très belle terre de randonnée et très, très historique. Et ensuite, il faudra attendre quand même, après-guerre pour voir vraiment le grand développement des sentiers de randonnée balisés en France.
C'est ça, hein, c'est 1947, le premier vrai GR, chemin de grande randonnée avec cette célèbre maintenant marque rouge et blanche, deux traits parallèles, un trait rouge, un trait blanc. C'était selon les fondateurs parce que plus visible la nuit et puis en même temps on pouvait pas les confondre avec les marques des forestiers. Donc ça, 1947, et puis ensuite ça va se développer mais dans des proportions incroyable. Aujourd'hui, qui sont les personnes qui entretiennent ces marques sur ces sentiers ?
Alors, ce sont essentiellement des bénévoles, des bénévoles de la Fédération française de randonnée, qui on peut parfois d'ailleurs les croiser en marchant, qui ont leur petit pochoir et qui, alors à la fois entretiennent le balisage et puis également les sentiers. Alors bien sûr, les communautés locales, les pouvoirs publics sont quand même souvent impliqués également dans l'entretien et dans la pose des panneaux, notamment par exemple en montagne, on repose les panneaux tous les ans après l'hiver, mais ce sont quand même essentiellement encore les bénévoles de la Fédération française de randonnée.
Et ces chemins, vous l'expliquez aussi, ils ont une histoire, c'est-à-dire qu'avant d'être chemins de randonnée, ils ont eu des utilités, c'était à vocation économique, migratoire, culturelle. Sur chaque chemin, en fait, l'histoire est bien plus longue.
Oui, bien sûr. Alors évidemment, on peut penser ici au chemin de pèlerinage.
Hein. Oui, Compostelle.
Alors, évidemment, le Compostelle, le chemin de Saint-Gilles aussi, par exemple. Bon, il y a beaucoup de GR qui reprennent ces anciens sentiers de pèlerinage. Mais au-delà de ça, c'était de toute façon des sentiers qui sont empruntés depuis souvent la nuit des temps. Alors oui. Parfois des sentiers de transhumance, d'autres fois des sentiers de marchands. On croise même souvent des anciennes voies romaines. Il y a une véritable logique territoriale qui est mise en valeur et reprise par ces sentiers, mais qui date évidemment de siècles
alors,
bien plus anciens.
Sylvain Bazin, il nous reste quelques minutes pour évoquer quelques-uns des sentiers. Alors, ils sont bien répertoriés dans votre ouvrage. Si on veut marcher, par exemple, au bord de la mer, il y en a un incontournable, GR 34.
Oui, effectivement, c'est le GR côtier incontournable, puisqu'il parcourt toute la côte bretonne, ce sont plus de 2000 km de sentiers qui frôlent la Manche puis l'océan Atlantique, avec toute la diversité aussi des différentes côtes bretonnes, entre la côte d'Émeraude, la côte sauvage, et puis ensuite dans le Finistère, vraiment des très très beaux endroits, ouais. Très très sauvages.
Et pour marcher au bord de l'eau, vous en citez plusieurs, le long des fleuves, il y a évidemment le long de la Loire. D'ailleurs, c'est le premier GR à avoir été balisé, le GR 3.
Effectivement, ouais. À partir de 1947, c'est le tout premier et on peut toujours le suivre en 2021. Lui, il va vraiment de la source jusqu'à l'embouchure, du Mont Gerbier jusqu'à au Saint-Nazaire.
Ouais. Voilà. Et il y en a d'autres. Il y a aussi sur la Seine. Enfin, en fait, tous les grands fleuves, on peut les suivre à pied. Ça peut être une idée. Alors, faut avoir un peu de temps.
Effectivement.
Ça prend 2-3 semaines.
Oui, mais on peut effectivement, selon votre fleuve préféré, suivre la Seine, suivre le GR 800 sur la Somme, ou bien encore les Balcons du Rhône. Ouais. Le GR 42.
Alors, bien sûr, il y a la montagne aussi. Parmi les GR de montagne, vous en citez plusieurs. Prenons celui de la Vanoise, par exemple.
Oui, c'est vrai que le Tour des glaciers de la Vanoise, où on prend le GR 55, ça permet vraiment une immersion à la fois dans un univers qui plairait peut-être un peu moins à Alain Baraton, puisque c'est très minéral. Il y a pas beaucoup d'arbres, il y a quelques plantes, mais voilà, on est vraiment tout au seuil des glaciers, et c'est quand même quelque chose de très impressionnant.
On va voir avec Alain Baraton. Vous êtes un marcheur, un petit peu?
J'ai été un grand marcheur, mais juste une parenthèse. Les paysages minéraliers, oui, justement, mettent en valeur les végétaux. Dès qu'on les retrouve, on est encore saisi par davantage de beauté.
Ah voilà. Toujours le côté positif d'Alain Baraton. Et pour ceux qui préfèrent quand ça grimpe pas trop, il y a des jolis GR à la campagne aussi, Sylvain Bazin?
Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est une spécificité française également. On peut tout à fait parcourir nos belles campagnes. On peut citer même le GR1 qui traverse l'Île-de-France, qui passe pas très loin de Versailles, notamment dans la forêt de Rambouillet, où là, pour le coup, on est très bien servi en arbres et en très beaux chênes et feuillus. Mais on peut également s'aventurer aussi sur les pas de Georges Sand ou alors sur le Causse-Corrézien, par exemple, qui est un très joli GR à découvrir avec alors c'est un cause qui lui est très très vert, c'est un cause forestier beaucoup moins découvert que les grandes causes qu'on aurait à l'esprit, mais voilà qui passe notamment par le très beau village de Turenne. Il y a vraiment des très très belles surprises à découvrir, mais un peu partout en France.
Ouais. Et pour les découvrir, on peut déjà commencer par votre ouvrage. Merci Sylvain Bazin. Je rappelle le titre de votre livre, La France des GR. Il est paru chez Glénat. Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast. Pour nous laisser un message, vous connaissez le chemin, la page Facebook du temps d'un bivouac ou la page de l'émission sur franceinter.fr. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.